Comme on vous a mentionné un petit peu plus tôt dans l'émission, on a de la belle visite en studio ce matin. Gabriel Nadeau-Dubois est avec nous, co-porte-parole de Québec solidaire. Gabriel, merci d'être là.
Ça fait plaisir. Merci, messieurs. Bonjour.
Gabriel, vous êtes... Je lance ça en partant.
Oui.
Vous vous êtes prêté au jeu. Vous êtes devenu animateur d'une compétition culinaire. C'était pour
exact.
Une bonne cause. Ouais. On va en parler. Mais tout d'abord, petit extrait pour les auditeurs.
Vous avez 2 heures... pour préparer un repas qui pourrait être servi dans une école primaire ou secondaire au Québec. Ça doit être délicieux, mais ça doit respecter un budget réaliste pour une école. Et surtout, ça doit pouvoir être préparé dans une cafétéria. Donc, vraiment, aucune pression. Est-ce que vous êtes prêts?
Tellement, chef!
J'aime ton attitude, Christian. Eh bien, c'est parti. 1, 2, 3, chrono!
Avec Leslie Chesterman, Jean-Philippe Cyr, Christian Bégin, qui était là, Alexandra Diaz aussi. Et c'était, Gabriel, pour une bonne cause.
Ouais.
On veut justement mettre en lumière et surtout combattre là, un sérieux problème au Québec, l'insécurité alimentaire dans nos écoles.
Ben oui, il y a 1 million de Québécois chaque mois qui vont dans les banques alimentaires. Et puis là-dessus, il y en a 1 sur 3 que ce sont des enfants. Si c'est une société riche, le Québec, là, on ne devrait pas accepter qu'il y ait des jeunes au Québec qui ne mangent pas. Et des jeunes qui soient sur nos bancs d'école, dans nos écoles publiques, qui ne mangent pas à leur faim. Moi, ça m'empêche de dormir. Je comprends pas qu'on accepte ça. Ça veut dire que ce matin, là, en ce beau mardi matin, il y a des enfants dans toutes les régions du Québec qui rentrent à l'école, qui n'ont pas bien mangé, qui vont avoir le ventre vide toute la journée. Est-ce que ces jeunes-là vont bien apprendre? Ben, poser la question, c'est y répondre. C'est quoi la solution? Ben, c'est d'avoir, comme il existe dans à peu près tous les pays développés, un programme national d'alimentation dans nos écoles qui viendrait servir des repas à tous les enfants qui le désirent pour que nos enfants aient le ventre plein quand ils apprennent.
Et servir des repas, ça, j'imagine que c'est à coût nul ou à coût très modique vu qu'on vise les familles défavorisées.
Ben, l'objectif, ce serait que ce soit soit gratuit, soit à très faible coût. Dans certains pays, c'est 100% gratuit. Dans d'autres, il y a un petit coût symbolique. Ça peut être 1$, 2$. Rendu là, c'est des détails. Si vous voulez mon avis, là, l'important, c'est que nos jeunes puissent manger dans les écoles. Et donc, l'objectif du concours de cuisine, c'était d'attirer l'attention sur ce problème-là, de faire ça de manière un peu amicale. On a lancé le défi à 4 chefs cuisiniers que les Québécois connaissent bien en disant « Préparez-nous des repas qui pourraient être servis dans des cafétérias d'écoles primaires et secondaires. Priorisez les produits québécois, bien sûr. » C'était pour faire la démonstration que c'est possible de bien manger à l'école de manière saine. Puis qu'on peut parler de ces enjeux-là quand même en gardant le sourire.
Et là, Gabriel, il va falloir penser à des idées sérieuses parce qu'on apprend ce matin que c'est pas le fameux panier bleu
Va
venir régler le problème.
Ben non, le panier bleu, c'était pas du tout improvisé, cette patente-là.
Non.
Tout le monde est surpris au Québec matin. Les gens se sont levés, tombés en bas de leur chaise, tombés en bas de leur lit en voyant ça sur leur téléphone. Non, mais c'est ça. C'est beaucoup des patentes à gosses, là, ce genre de projet-là. Alors que, tu sais, je pense qu'on a besoin de beaux projets de société emballants. Tu sais, là, on la sent la morosité au Québec, là, la crise du logement, l'explosion des prix à l'épicerie. Tu as du monde qui sont dans la classe moyenne, qui travaillent à temps plein, puis ont de la misère à mettre de la bouffe sur la table. Hey, si tu as 2 enfants, 3 enfants, là, 10, 15 lunchs par semaine, là, avec les prix de l'épicerie, je veux dire, ça monte vite. Un programme comme ça viendrait donner, bien sûr, du soutien aux enfants vraiment les plus défavorisés, mais même viendrait donner un petit break à la classe moyenne en disant, ben là, on vous enlève la facture des lunchs. Quand même, c'est un vrai coup de pouce pour le monde. Puis ça existe dans tellement de pays. Moi, je ne comprends pas ça qu'on n'a pas ça au Québec.
Bien, concrètement, est-ce qu'on peut le faire, Gabriel? Parce que souvent, là, puis j'entends les auditeurs du stress dire, c'est le fun, des bonnes idées, mais souvent, on lance les bonnes idées comme ça, puis ça ne voit jamais le jour.
Bon, première affaire, le Canada, c'est le seul pays du G7, le seul, qui n'a pas de programme national d'alimentation comme ça. Déjà, ça existe dans pas mal d'endroits dans le monde. On est plus l'exception que la règle de ne pas avoir ça au Québec. Ça coûterait entre 600 millions puis 1 milliard par année selon que les repas sont gratuits ou pas. Là. Il y a plusieurs scénarios.
Oui, c'est ça, dépendamment.
Exact, on en parlait tantôt. Donc, c'est possible. Puis en plus, on pourrait demander aux écoles primaires et secondaires, ben, quand vous faites vos achats, prioriser les agriculteurs de votre région. Fait que ça fait des retombées économiques dans nos régions. C'est bon pour notre souveraineté alimentaire au Québec. Hein? Ça fera en sorte qu'on consommerait plus d'aliments qu'on produit ici. Vraiment, pour vrai, c'est bon à tellement de niveaux. Puis en plus, les études démontrent, là, selon les endroits dans le monde, que pour chaque dollar que tu investis dans un programme comme ça, ça donne entre 3 et 10 $ de bénéfices économiques. Donc, ça va nous redonner de l'argent. On va pouvoir prendre soin de nos enfants. Moi, je trouve qu'on a besoin de ce genre de beaux projets-là en ce moment au Québec.
Est-ce que tu ferais la même chose pour les banques alimentaires qui débordent?
C'est sûr qu'il faut aider les banques alimentaires. Mais en même temps, quand on signe un chèque de fonds publics pour les banques alimentaires, mmh. qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre un plaster sur le bobo. Hein? On est en train de s'attaquer de manière superficielle au problème. Est-ce que notre projet de société au Québec, c'est de donner 50, 100 millions de dollars par année pour remplir, pour faire des épiceries,
ouais, carrément, non,
et remplir
ça.
Des tablettes de banques alimentaires? Ou est-ce qu'on veut réfléchir à pourquoi les gens ont faim? Ouais. Comment ça se fait que dans un Québec où les taux de chômage n'ont jamais été aussi bas, il n'y a jamais eu autant de monde dans les banques alimentaires? Ah, ça, c'est poser la bonne question. Bien sûr, à court terme, il faut les aider. Là. Ça n'a pas d'allure qu'il y ait des listes d'attente dans les banques alimentaires. C'est une absurdité. Mais quand on fait ça, on s'attaque vraiment juste à la surface du problème. Moi, j'aimerais ça qu'on parle au Québec. Comment ça se fait que dans une société aussi riche, il y a du monde puis des enfants qui ne mangent pas à leur faim?
Et comment qu'on travaille ça en prévention maintenant?
Bien, après, il y a plein de choses à faire. Hein. Il faut encourager, bien, il y a tout un travail de sensibilisation à faire à l'alimentation saine. Il faut augmenter les salaires au Québec pour que les gens soient capables de bien manger avec un salaire normal, un salaire moyen. Puis il faut aussi penser au reste du budget. Ouais. Si le coût des logements continue à exploser autant, si le coût des hypothèques continue à augmenter, c'est quoi une des seules factures qu'on peut compresser dans un budget familial? C'est l'épicerie. Ton hypothèque, ton loyer, tu peux pas dire « Ah, ce mois-ci, je suis serré, je vais le payer aux trois quarts. » Non, ça marche pas. Ouais. Ton paiement sur ton véhicule, bon, il faut que tu payes ces affaires-là au complet. Une des rares factures que tu peux compresser, c'est la bouffe. C'est ça qui se passe au Québec. Explosion du prix des logements, explosion des prix en épicerie. C'est quoi la facture qui écope? C'est celle justement de l'épicerie, de la bouffe, ce qui explique l'augmentation de l'insécurité alimentaire. Fait qu'il faut agir sur tous ces facteurs-là. Ça sera pas simple, mais déjà, si on part avec le principe qu'un enfant québécois, peu importe sa famille, quand il s'assoit le fessier sur une chaise d'une école publique au Québec, il devrait avoir assez mangé pour être capable de bien apprendre. Si on est capable de s'entendre là-dessus, puis ça, pour moi, je veux dire, c'est le strict minimum. Si on est capable de s'entendre là-dessus, bien déjà, je pense qu'on fait un pas dans la bonne direction.
C'est un enjeu super important. Ouais. On veut que la population puisse manger puis de façon abordable. Sentez-vous de l'appui des autres partis?
C'est une proposition que le Parti québécois a déjà fait, la main étendue vers le Parti libéral, vers la CAQ. Moi, je veux qu'on travaille ensemble. C'est pour ça aussi que ces personnalités-là ont accepté le défi amical que je leur ai lancé. C'est parce qu'on... Moi, on ne devrait pas avoir de gros débats partisans déchirants là-dessus. Mm-hmm. Là. Je veux dire, les enfants, là, le principe de base, un enfant, ça ne choisit pas la famille dans laquelle ça naît. Il y en a qui naissent d'une famille qui a plus d'argent. Il y en a qui naissent d'une famille où il y en a moins. Mais est-ce que c'est la faute des enfants, ça? Est-ce que c'est leur faute? Si leurs parents en arrachent, pourquoi est-ce qu'ils auraient de moins bonnes chances de réussir dans la vie parce que le destin, le coup de dé de leur naissance... et pas bien tomber. T'sais. Puis s'assurer que les jeunes mangent bien à l'école, c'est une manière d'essayer d'égaliser un petit peu les chances des petits Québécois et des petites Québécoises, peu importe la famille dans laquelle ils sont.
Question d'un auditeur, puis ça va de pair avec banque alimentaire, pauvreté. Ouais. Quelle est la vision de l'itinérance chez Québec solidaire?
Mais l'itinérance, souvent, c'est ce qui arrive à la toute fin. Hein. Donc, il y a d'abord une perte de logement parce qu'il y a une éviction. Là, il peut y avoir un enjeu de santé mentale qui entre en ligne de compte. Et là, tout ça se cumule, s'accumule. Puis souvent, l'itinérance, c'est ce qui se passe à la toute fin. C'est un peu la pointe visible de l'iceberg. Il faut travailler sur les causes profondes de l'itinérance d'abord. Pourquoi est-ce que les gens se retrouvent à la rue? Savez-vous c'est quoi maintenant la cause numéro un de l'itinérance au Québec?
Non.
C'est les expulsions de logements. Mmh. Il faut travailler sur ces facteurs-là. Puis bien sûr, en parallèle, il faut aider le monde une fois qu'ils sont dans la rue. Mais tu sais, c'est un peu comme la faim. Moi, qu'on donne de l'argent pour des refuges, qu'on donne de l'argent pour aider le monde à sortir de la rue, je pense qu'il faut le faire dans une société civilisée. Mais il ne faut jamais oublier que le plus important, c'est de travailler sur les causes. Pourquoi le monde se rend là?
Sujet très chaud qui fait beaucoup jaser depuis plusieurs semaines, le financement politique, le 100 $200 pour rencontrer quelqu'un de la CAQ pendant deux minutes. Enquête maintenant d'élections Québec qui vise justement cette pratique-là. Chez Québec solidaire, on en pense quoi?
Moi, je trouve ça épouvantable. Tu sais, les politiciens font des erreurs des fois, puis ça se peut qu'il y ait des députés de la CAQ qui aient fait des erreurs. Mais là, demander... Tu sais, tu as des enfants, Red, j'en ai aussi, tu sais, à des parents qui ont perdu leurs enfants... de payer pour parler à une ministre, puis deux minutes, pas plus, comment on peut se rendre là? Puis moi, c'est pour ça que j'ai de la misère à croire qu'il n'y avait aucune directive, aucun système, aucune façon de faire organisée. Là. On est censé croire qu'il y a un employé de la CAQ qui s'est levé ce matin-là, puis il a dit « Moi, je vais faire ça aujourd'hui. De mon propre chef, là, je vais demander à une famille endeuillée de payer pour rencontrer une ministre pour leur parler de la cause qui est devenue la leur ouais. parce qu'ils ont perdu leur kid. Puis si tout ça est arrivé sans qu'il y ait aucune coordination, écoutez, moi j'ai de la misère à croire ça. Je peux pas croire qu'il n'y avait pas une forme de façon de faire instituée pour que ces choses-là se produisent. Sinon, ça veut dire qu'il y a autant de députés de la CAQ puis autant d'employés de la CAQ qui ont fait tout à peu près la même chose, tout à peu près dans les mêmes années, mais c'est par hasard. Je disais, pas besoin d'être un... Je pense pas qu'il y ait un complot, mais je pense qu'il y avait une façon de faire répétitive puis organisée à la CAQ. Puis je trouve ça épouvantable. Il me semble qu'on voulait mettre ça derrière nous au Québec, ces affaires-là. Puis, tu sais, couper le problème en disant on va arrêter de faire du financement citoyen. Je veux dire, le problème, là, puis je pense que les gens qui nous écoutent, ils l'ont, tout le monde l'a compris au Québec, c'est pas que le monde puisse faire un don à un parti pour l'encourager parce que, ah, vous, la CAQ, je vous aime bien, je vais vous faire un don. Puis vous, les libéraux, je vous aime bien, je vais vous faire un don. Puis vous, Québec solidaire, là, vous vous battez sur le logement, puis ça me rejoint, je vais vous donner un petit 50$. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Ouais. Le problème, c'est quand t'échanges, c'est quand le don politique devient une monnaie d'échange contre, par exemple, une rencontre avec une ministre. Moi, ça me revient pas, ces affaires-là.
Je sais qu'on a changé la loi sur justement le financement des partis politiques. Ouais. Fait que c'est plus des enveloppes avec des milliers de dollars dans un restaurant qui sont distribués. Puis Dieu merci, c'est des 100$. Ouais. Mais est-ce qu'on est rendu à faire une enquête publique du même ordre, même si c'est des montants moindres, parce que ça reste un processus qui se ressemble, selon moi?
Bien, c'est clair que là, il y a une apparence. Il y a une apparence qu'il y avait une forme d'échange entre un don et un accès privilégié à un ministre. Là, il y a déjà une enquête d'Élections Québec. Ouais. Reg, tu en parlais à l'instant. On va attendre de voir les résultats quand même de cette enquête-là. Il y a quand même aussi la commissaire à l'éthique qui fait quelques enquêtes en ce moment à la demande d'un des membres de notre équipe à Québec solidaire. Fait qu'on va attendre de voir les résultats de ces enquêtes-là. Mais c'est clair que il faut aller au fond de cette histoire-là parce que c'est dérangeant, puis parce que les Québécois, ils ont le droit de contribuer à un parti politique si ça leur tente. Mais accéder à un élu pour faire avancer ses préoccupations, ça devrait être gratuit.
Le dossier Nordvolt fait énormément jaser. Quelque chose qui a fait jaser hier, c'est cette lettre de Pierre Fitzgibbon, lettre ouverte dans la presse en réponse à une chronique qu'il avait eue où il parle notamment de journalistes militants avec un ton un petit peu, puis ça, c'est un ton qui était revenu aussi, je pense, il y a deux semaines dans une entrevue en disant « OK, c'est beau, vous en voulez pas, les Québécois, de ces projets-là qui sont bons pour nous. Oh, c'est beau, on n'en fera pas. » Puis là, ce matin, je voyais encore passer une entrevue à Radio-Canada où il dit « ben dans certains cas, ben il n'y a pas besoin de BAP parce que ça n'a pas d'impact environnemental dévastateur. J'imagine que Québec solidaire voit ça puis en revient pas.
Bien, encore une fois, je trouve que ça respecte pas beaucoup comme l'intelligence des Québécois, des Québécoises. Les Québécois, les Québécoises, c'est du monde intelligent. Là. Ils peuvent voir l'attrait d'un projet comme ça en se disant « Hey, c'est quand même des batteries, c'est de l'économie verte, c'est des emplois. » C'est pas inintéressant, mais on peut-tu faire les affaires comme il faut? On peut faire un BAP, on peut s'assurer que tout le monde soit respecté là-dedans. Et là, c'est comme si même ces questions-là que posent certains citoyens, certains journalistes, c'est vrai...
Ben journalistes là, militants.
Oui, ben là, ça devient comme épouvantable. Puis voyons donc, c'est quoi vous en voulez pas? C'est comme dans un couple, il y en a un qui dit ah, « Chérie, il est 4 heures, je t'avise, je m'en vais voir la game avec mes amis à soir. » Ben là, tu pourrais-tu me le dire d'avance? Ah, oh, c'est ça, ben j'ai verrai plus jamais mes amis dans ce cas-là. Tu sais, je veux dire, c'est juste demandé de me le dire d'avance. Je t'ai pas demandé. Je t'interdis pas de voir tes chums. Je te dis, peux-tu m'en parler d'avance?
C'est un exemple personnel, ça?
Ouais, c'est ça.
T'as sorti ça vraiment?
Je ferais jamais ça. Non, mais il y a comme un. On peut. Tu sais, c'est. Non, hey, 7 milliards de dollars, là. 7 milliards de dollars d'argent public qui s'en va dans cette industrie-là. On a-tu le droit de poser des questions, s'il vous plaît? C'est juste ça.
Ouais. En effet. Autre exemple fictif qui m'est déjà arrivé. Hey, chérie, je vais aller voir les expos. Ouais, j'aimerais ça que tu m'avises à l'avance. Mais là, on fait quoi avec le stade olympique? Parce que près de 900 millions pour le toit, là, on parle de rénovation. Après ça, qui coûterait du 500-600 millions. Le démolir, on n'a pas d'études fraîches. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Moi, quand le gouvernement nous donne des chiffres, je prends toujours le point de départ que c'est les bons chiffres.
T'sais, on rentre pas.
Puis là, on nous a dit au départ, le démolir, ce serait 2 milliards. Là, on s'est dit, 2 milliards pour le démolir, c'est pas génial. Alors, on s'est dit, si c'est moins cher quand même de le rénover, de le rendre à nouveau fonctionnel puis attirant que de le démolir, la moins pire des décisions, c'est d'investir pour l'améliorer. Là, ce qu'on apprend dans les derniers jours, c'est que le 2 milliards en question, c'est pas clair.
C'est boiteux, là.
Première étape, il faut de la transparence, là. Il faut les vrais chiffres pour qu'on prenne la bonne décision. Tu sais, à un moment donné, là, c'est une infrastructure publique dans laquelle on a mis tellement beaucoup d'argent. Il faut prendre le temps de prendre la bonne décision. Puis ça veut dire que ça prend de la transparence. Il faut qu'on ait les bons chiffres.
Dans les sondages, puis je pense qu'on va finir avec ça, ouais. La CAQ est en chute libre depuis un bon bout de temps déjà. Du côté de Québec solidaire, depuis un bon bout de temps, il y a des gens qui disent « Ouais, là, c'est en stagnation, ça va pas monter. » Puis QS aurait pu profiter de cette chute-là de la CAQ pour monter. C'est le Parti québécois qui en a profité à la place. Ça va prendre quoi pour que QS monte plus que 15-16% dans les sondages?
Si je connaissais la clé pour expliquer le mystère des sondages, messieurs, je serais soit très riche, soit déjà au pouvoir. Alors, je sais, moi, je t'sais, comprendre les sondages qui vont, qui viennent comme ça, en plus à 2 ans et demi, presque 3 ans des élections, c'est un talent que je n'ai pas. Moi, je sais une chose, c'est quand je me lève le matin, là, quand je lance un projet comme celui dont je suis venu parler sur l'insécurité alimentaire chez les enfants, la question que je me pose, c'est pas comment je fais pour prendre 3 points dans le prochain sondage léger. La question que je me pose, c'est de quoi le Québec a besoin, c'est quoi qui est important, puis où est-ce que sont mes valeurs. Moi, c'est comme ça que je me gouverne. Pour le moment, c'est pas très payant dans les sondages. C'est vrai, on verra ce que l'avenir nous réserve. Moi, je sais une chose, quand on parlait de la crise du logement à Québec solidaire il y a 5 ans, là, le monde, il nous regardait en voulant dire « Mais de quoi vous parlez? C'est pas intéressant, c'est pas une priorité. » Puis là, 5 ans plus tard, pouf, tout d'un coup, tout le monde parle de logement au Québec. Fait que des fois, dans vie, comme en politique, rester fidèle à ses valeurs, continuer à faire ce qu'on pense qui est la bonne chose à faire, ça finit par payer. Ça s'appelle la cohérence, rester fidèle à soi-même. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas combien de temps je vais faire de la politique, mais tant que je vais en faire, c'est comme ça que je vais en faire, en me levant chaque matin puis en me posant la question, qu'est-ce qui me dérange dans le Québec d'aujourd'hui puis c'est quoi les solutions qu'on pourrait mettre en place? Puis pour boucler la boucle, moi, une des affaires qui me dérange beaucoup, c'est qu'il y a des enfants sur nos bancs d'école qui ne mangent pas. Puis je pense qu'on a une belle solution enthousiasmante autour desquelles on pourrait ramasser les autres partis.
Et la journée que vous allez décider de ne plus faire de la politique, bien peut-être animateur d'une compétition culinaire à la télévision.
Ben oui, ou
pourquoi pas?
Ou d'une émission de sport.
Ah, ben OK.
Ça, j'avoue que c'est aussi un petit fantasme inassouvi.
Ben c'est-tu. Hey, prochaine fois que tu passes nous voir en studio, on gardera un petit 2 minutes pour le sport.
Ça va me faire plaisir. On aurait dû le faire aujourd'hui.
Gabriel Nadeau-Dubois est avec nous. Merci infiniment. Co-porte-parole pour Québec solidaire. Passe une magnifique journée.
Bonne journée.
À bientôt. Salut. Jusqu'à 10.